Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, nous souhaitons remercier nos abonnés VIP qui nous soutiennent tous les mois sur lecoinducrime.com. Sachez que nous sommes en train de préparer pour vous des t-shirts de notre collection exclusive Le Coin du Crime, que tous nos sponsors VIP recevront gratuitement chez eux. Il s'agit de Valérie, Marc-Antoine Vaillancourt, Marianne Lafleur, Arnaud Imbeau, Pascal Dag, Joël LVT et Delphine Amblat. Nous vous remercions infiniment. Votre soutien permet à des milliers de personnes d'écouter nos épisodes. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur lecoinducrime.com pour devenir un VIP. On commence. Le 5 septembre 2012, en Haute-Savoie, la famille Alili, des campeurs venus d'Angleterre, sont retrouvés sauvagement assassinés dans leur voiture, dans un sentier forestier. La nouvelle du massacre est rapidement ébruitée dans la région et choque toute la France. Pourtant, l'enquête complexe qui s'ensuit, à cheval entre la France et la Grande-Bretagne, va vite se trouver embourbé dans de nombreuses interrogations et des fausses pistes, plongeant les enquêteurs et le public dans un dédale d'hypothèses et de spéculations. Mais qui a bien pu s'en prendre à une paisible famille de touristes, visiblement sans histoire? Qui étaient les tireurs? Quel était leur mobile? Pourquoi cette famille spécifique a-t-elle été ciblée? Vengeance familiale, vendetta ou espionnage industriel? Ces interrogations vont alimenter un flot continu de théories, sans qu'aucune réponse claire n'ait émergé jusqu'à aujourd'hui. Cela signe le début de ce qui sera connu comme la tuerie de Chevaline. Tout commence le 5 septembre 2012, sur une route de montagne près du village de Chevaline en Haute-Savoie, à proximité du lac d'Annecy. C'est la fin de l'été, mais la région est encore densément fréquentée par les touristes, surtout les retraités britanniques qui y possèdent tous, ou presque, une résidence secondaire. Le soleil, l'air frais, les sommets majestueux, les lacs, permettent une détente absolue, loin du tumulte des grandes villes surpeuplées, et un dépaysement complet pour les étrangers qui vivent ici. En début d'après-midi, un ancien vétéran et retraité de la Royal Air Force, un certain William Brett Martins, qui habite lui-même Annecy depuis quelques années, sort faire son parcours quotidien à vélo. Malgré son âge avancé, la santé de Martins est relativement bonne et il aime beaucoup ces grands espaces verts, l'air piquant et les montagnes de Haute-Savoie. Il est environ 15h quand il quitte le village de la Tuile, non loin du lac d'Annecy, en pédalant sur son VTT. William Brett Martins, casque de cycliste sur la tête, prend le chemin de la route forestière de Chevaline. Il roule à cadence moyenne. Au cours de sa promenade, il est doublé par un autre cycliste, apparemment plus jeune et plus rapide. Ce dernier roule avec un vélo de type course et semble bien entraîné. Il roule très vite et laisse derrière lui le retraité anglais. Martins roule encore pendant 3 km. À un moment, il est de nouveau dépassé, cette fois-ci par une voiture break immatriculée en Grande-Bretagne. Des touristes, certainement. Le sentier est fréquenté tous les jours par des promeneurs, des hikers et des cyclistes. Mais en ce début d'après-midi, le soleil tape un peu fort et l'endroit est presque désert. En approchant du parking du Martinet, situé à 10 km au sommet de la montée, Brett Martins descend de son vélo. Et là, il fait une épouvantable découverte. Il aperçoit en premier, allongé de tout son long par terre, le cycliste qui l'a doublé tout à l'heure à vive allure. Le retraité pense d'abord que ce dernier est en train de se reposer, Mais en s'approchant de plus près, il réalise que l'homme est complètement immobile, inanimé. Mais ce n'est pas tout. À cet instant, William voit apparaître une fillette couverte de sang, complètement hagarde et titubante. Elle finit par s'effondrer sur les feuillages. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? De plus en plus inquiet par ce qu'il vient de voir, William Brett Martins entend le vrombissement d'un moteur de voiture en marche. En suivant la trajectoire du bruit, il voit, là encore, la voiture break qui l'a dépassée également tout à l'heure, embourbée dans un talus et les roues tournant dans le vide, complètement coincées dans la vase. Il pense d'abord qu'il s'agit certainement d'un accident. Mais en s'approchant du véhicule, il fait une découverte horrifiante. Les vitres sont criblées de balles. La première chose que fait Brett Martins est de briser la vitre côté conducteur pour couper le contact. L'homme assis sur le siège conducteur est mort, la tête ensanglantée. L'intérieur du véhicule est couvert d'éclaboussures de sang. À l'arrière, il y a encore deux autres personnes, deux femmes, mortes, visiblement, elles aussi. Le cycliste comprend qu'il ne s'agit pas là d'un accident de la route, mais plutôt d'une scène de crime. Immédiatement, il prend son portable et tente de joindre les secours. Mais en pleine forêt, le réseau est faible et il est impossible de les appeler. Avec son sang-froid, William Brett Martins met la petite fille blessée de tout à l'heure en position latérale de sécurité, afin de lui assurer un maximum de chances de survie. Puis, il redescend à toute vitesse vers le village pour alerter les pompiers et les gendarmes, les secours qu'il n'a pas pu joindre par téléphone. Mais bien avant d'arriver à destination, soit environ à 20 km du parking, il croise une voiture qui fait le trajet inverse, c'est-à-dire en montée. Il y a à son bord trois amis randonneurs. Avec le peu de mots français qu'il connaît, le retraité tente de faire comprendre aux trois hommes qu'il y a un massacre en haut, qu'ils doivent rebrousser chemin et alerter les autorités. L'homme à bord de la voiture obéit et téléphone alors immédiatement aux pompiers. À ce moment, il est approximativement 15h48. Précédé par le cycliste, le conducteur monte jusqu'au parking du Martinet pour tenter de sauver la fillette blessée et inconsciente. À l'instar de Brett Martins, il est choqué à son tour par ce qu'il voit. Le conducteur de la voiture break a au moins deux impacts de balles dans la tête, et derrière, les deux femmes ont subi les mêmes blessures fatales. Une scène complètement irréelle, tout droit sortie d'un film d'horreur. On ne voyait cela qu'à la télévision, se souvient ce témoin. Dans leur hâte de secourir la fillette, les deux hommes en oublient presque que le ou les assassins sont peut-être toujours en train de rôder dans les alentours. Alors, ils vont s'abriter derrière un bosquet en attendant l'arrivée des secours. À environ un mètre de distance de leur cachette, se trouvent les corps ensanglantés de la petite fille et de l'autre cycliste. Ni l'un ni l'autre ne donnent signe d'être encore en vie. Au bout de 7 minutes d'attente, le randonneur propose au cycliste anglais de quitter les lieux pour ne pas devoir s'exposer à un éventuel danger de mort. À 16h03 précisément, les pompiers et les gendarmes finissent par arriver sur les lieux. Le premier constat que font ces derniers est que le cycliste français et les trois personnes présentes dans le véhicule sont décédés par balles. Quant à la fillette, son pouls bat encore, mais elle est grièvement blessée à la tête et à l'épaule gauche. Elle est conduite en toute urgence à l'hôpital régional de Grenoble. La section de recherche de Chambéry, avec à sa tête le lieutenant-colonel Benoît Vinemann, est alors chargée d'enquêter sur le quadruple meurtre. Le militaire apprend avec stupéfaction ce drame, un peu irréel, qui s'est déroulé dans une région aussi paisible et densément fréquentée par les touristes que le lac d'Annecy. D'autant plus que la scène de crime est un endroit d'habitude emprunté par les randonneurs et les cyclistes, aussi bien en groupe qu'en solo. C'est un point de montée connu qui grimpe en direction des passages forestiers situés plus haut. Ordre est donc donné pour que la scène de crime soit gelée par les techniciens en identification criminelle locaux. Le premier groupe de gendarmes arrivé sur les lieux commence ses investigations. Ils veulent absolument mettre la main sur le ou les assassins qu'ils pensent toujours rôder dans les bois. Durant une bonne partie de la soirée et jusqu'à une heure tardive de la nuit, des barrages sont mis en place pour empêcher la circulation dans le secteur. Les cyclistes et les randonneurs sont interdits dans le secteur pendant les jours suivants. Des plaques signalétiques en anglais sont même accrochées à l'entrée du sentier. Ce sont les prémices d'une véritable chasse à l'homme qui commence, et il faut agir vite. Les moyens sont déployés sur terre avec des chiens pisteurs, mais aussi par voie aérienne avec un hélicoptère de la gendarmerie qui survole le périmètre. On espère, grâce à ces moyens, retrouver une voiture, un homme, quelque chose. Pendant ce temps, la terrible nouvelle du quadruple meurtre se répand rapidement dans la vallée et provoque une psychose généralisée. Tout le monde est persuadé que le meurtrier ne peut être qu'un rôdeur, un vagabond qui court encore dans les bois à l'heure qu'il est et qui risque de faire de nouvelles victimes. Alors, les habitants de Chevaline se barricadent à l'intérieur de leur maison et cadenassent portes et volets. À la tombée de la nuit, malgré les efforts déployés, les recherches des gendarmes ne mènent à rien. Ils n'ont pas réussi à trouver la trace du tueur présumé. Les médias qui s'emparent très vite de l'affaire lui donnent désormais le surnom de « la tuerie de Chevaline ». Pendant ce temps, la petite fille rescapée et retrouvée par William Brett Martins à l'entrée du parking du Martinet est plongée dans un coma artificiel. Devant le caractère inexpliqué et particulier des crimes, les gendarmes demandent l'aide d'experts de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, dont le siège se trouve à Paris. À 22h, ces experts arrivent en urgence à Chambéry et se rendent au parking du Martinet. Mais pour eux aussi, les recherches se révèlent complexes et difficiles. La scène de crime est un lieu de passage emprunté chaque jour par des dizaines de personnes. Difficile de savoir alors si les traces de pas, de roues, de voiture ou de vélo, repérées sur place, appartiennent aux victimes, à l'assassin ou à d'autres personnes. Alors, les gendarmes de l'IRCGN décident de s'intéresser à la position des corps sur la scène de crime. Cela pourrait fournir une réponse, espère-t-il, sur le déroulement du carnage. Un peu plus bas, à gauche, la voiture immatriculée en Angleterre est embourbée dans un talus, avec ses passagers massacrés à son bord. Et le corps du cycliste est projeté à environ un mètre du véhicule. Mais quelque chose semble vraiment étrange sur cette scène de crime. Les membres de l'IRCGN découvrent que la carrosserie de la voiture anglaise est indemne et que seules les vitres ont été criblées de projectiles. À l'intérieur, le conducteur assassiné a encore le pied appuyé sur l'accélérateur, tué de 2 balles dans le crâne. Sur la banquette arrière se trouvent 2 femmes, une jeune et une plus âgée. Elles se ressemblent. Il peut s'agir d'une mère et de sa fille. Couchées l'une sur l'autre, elles ont aussi reçu 2 balles dans la tête. Les enquêteurs remarquent que les traces de pneus du break, bien imprimées dans le sol, indiquant que le conducteur tentait désespérément de manœuvrer pour s'enfuir. De leur côté, les techniciens en identification criminelle prélèvent pas moins de 21 étuis de douille de calibre 7,65. Ceux-ci sont visibles et répertoriés partout autour de la voiture. Cette découverte leur permet de dresser un premier scénario du déroulement du massacre. Le contraste est saisissant entre le calme de l'endroit et la violence inouïe des événements. Pour des enquêteurs chevronnés, trouver 4 victimes assassinées froidement, sans compter la fillette blessée, est extrêmement troublant, surtout dans un lieu comme celui-ci. Le tueur courait le risque d'être vu dans ce lieu de passage. Pourtant, il a abattu ses victimes en plein jour, sans crainte d'être vu. Un tueur déterminé, rapide et habile. Et puis, il y a les douilles de calibre 7,65, qui n'est pas une arme courante et adaptée à ce genre de tuerie massive. Un assassin expérimenté aurait choisi du gros calibre pour ce genre d'opération, ce qui n'est pas le cas ici, et on se demande pourquoi. Parallèlement aux recherches, qui se poursuivent dans un climat chargé de peur, les enquêteurs s'intéressent maintenant à l'identité des victimes. Grâce au téléphone portable retrouvé dans la poche du cycliste abattu, ils apprennent que ce dernier s'appelle Sylvain Mollier, 45 ans. Il vient de se remarier pour la 2e fois et il est père de 3 enfants. Il est savoyard et habitait, avant la tuerie, dans la commune d'Ugine, juste à quelques kilomètres du parking du Martinet. Quant aux autres victimes, ils apprennent que le conducteur et les 2 femmes sont de la même famille. Il s'agit de touristes britanniques d'origine irakienne. Le papa, Saad Halili, est un ingénieur en aérospatial, âgé de 50 ans. Puis, il y a sa femme, Iqbal Halili, 47 ans, ainsi que sa belle-mère, Souhaïla Alaaf, 74 ans. Selon les calculs des gendarmes et des experts en balistique, ainsi que les témoignages recueillis auprès de William Brett Martins et le conducteur de la voiture qui l'a croisé, la tuerie aurait eu lieu juste après 15h, c'est-à-dire en plein jour. Le lendemain, un ressortissant britannique vient prévenir les gendarmes de Saint-Joriot que ses voisins de camping ne sont pas rentrés depuis la veille. lui-même a entendu à la radio le drame qui s'est déroulé dans ce parking, impliquant des victimes d'origine britannique. L'homme, pris de doute, voulait s'assurer qu'il s'agissait bien de ses voisins. Malheureusement pour lui, le lien est aussitôt fait avec la famille Halili. Ce sont malheureusement bien les personnes dont on a parlé à la radio. Le gérant du camping de Saint-Joriot vient confirmer qu'effectivement, Saad Halili, sa femme Iqbal, leurs deux petites filles Zineb et Zina, âgées de 7 et 4 ans, et la mère d'Iqbal, séjournaient bien dans son établissement avant le drame. Les gendarmes apprennent alors avec stupéfaction que l'une des deux enfants du couple angro-irakien manque à l'appel, puisque sa sœur est déjà hospitalisée dans un état critique depuis le premier jour du massacre. Or, les gendarmes sont certains que la deuxième fillette n'était pas sur la scène du crime dans l'après-midi du 5 septembre. Où est-elle passée alors? A-t-elle été kidnappée par l'assassin et séquestrée quelque part? Pressés par le temps, les enquêteurs se mettent aussitôt et en pleine nuit à sa recherche, ratissant tout le bois entourant le parking du Martinet. Un hélicoptère est rappelé en renfort pour survoler une fois de plus la zone. Il est équipé d'une caméra thermique qui lui permettra de repérer la présence d'un corps dans l'obscurité. Mais les recherches restent vaines. À minuit, les enquêteurs décident finalement d'ouvrir les portières de la voiture des Halili, restée fermée jusqu'ici pour éviter d'abîmer par inadvertance une preuve matérielle. Les gendarmes s'y prennent avec beaucoup de délicatesse, en essayant de détruire le moins d'indices possible lors de la fouille du véhicule. Ils découvrent alors quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Zina, la fille cadette de Saad et Iqbal Halili, âgée seulement de 4 ans au moment des faits, a survécu à l'attaque de sa famille, en se cachant sous le corps de sa mère durant 8 heures d'affilée, sans bouger. Elle est prostrée, immobile, en état de choc, accrochée désespérément au pan de la jupe maternelle. Les secouristes consacrent beaucoup de temps à rassurer la fillette rescapée sur leurs bonnes intentions de la sauver. Si elle est physiquement indemne grâce au cadavre de sa mère qui lui a servi de bouclier lors de la tuerie, elle est en état de choc. La fillette est dans un tel état de terreur qu'il lui faut du temps pour sortir hors de la voiture, même après la fin de la fusillade et le départ de ceux qu'elle désigne avec son langage d'enfant comme « le méchant ». Pour éviter de l'effrayer, on désigne une femme gendarme pour aller la récupérer. L'enfant, méfiante au début, accepte finalement d'aller dans les bras de la gendarme. L'émotion est à son paroxysme à ce moment-là. La découverte de Zina Halili par les gendarmes, au beau milieu de la nuit, a l'effet d'une bombe dans le village de Chevaline. Il y a au moins une bonne nouvelle dans cette affaire. Néanmoins, la fillette n'a pas conscience que son père, sa mère et sa grand-mère sont déjà morts et que sa sœur aînée, Zineb, est plongée dans le coma et gravement blessée. Soudain, la petite se met à hurler en anglais. « Je veux aller voir maman! Je veux retourner près de maman !» Si, par la force des choses, elle est devenue un témoin clé de l'attaque, son jeune âge limite ses capacités à fournir des détails précis. Elle est immédiatement transportée à l'hôpital d'Albertville. Les 8 ou 9 heures qui se sont écoulées entre l'arrivée des premières équipes de secours et la découverte de la petite fille du couple Halili déclenchent un début de polémique. Les enquêteurs connaissent désormais l'identité de toutes les victimes, à savoir Sylvain Mollier et la famille de touristes d'origine irakienne. Si cette affaire est particulière, c'est qu'elle réunit deux groupes de victimes qui n'ont aucun point commun. Les gendarmes doivent alors déterminer si les victimes se connaissaient auparavant ou si c'est le fruit du hasard qui a fait qu'ils se sont retrouvés ensemble au mauvais endroit et au mauvais moment. Et puis, il y a cette question fatidique qui revient. Qui a été véritablement visé? Le cycliste français ou la famille Halili? Voire un membre en particulier de cette famille? L'enquête concernant la mort de Sylvain Mollier est a priori plus simple à mener du fait que c'est un ressortissant français mort sur le sol français. En revanche, cela sera beaucoup plus compliqué pour les victimes britanniques. Selon la législation française, puisque le triple assassinat des Halili a lieu sur son territoire, le devoir revient donc aux enquêteurs français de mener les investigations préliminaires à leur sujet, à fournir les premiers soins aux blessés, etc. La nationalité des victimes ne change donc rien à la donne. En revanche, une coopération policière s'instaure entre la France et ses homologues anglais. Dans cette affaire, qui s'annonce d'ores et déjà compliquée, plusieurs enquêtes devront être menées en parallèle. Il faut cependant souligner que les autorités françaises n'ont aucun droit de mener une enquête sur le territoire du Royaume-Uni, même s'agissant d'une simple audition. La section de recherche de Chambéry demande alors aux Britanniques des renseignements concernant la famille irakienne. Qui était donc cette famille et quel genre de vie menait-elle avant son massacre ? Pour le savoir, il faut se rendre à Claygate, un village cossu de la banlieue londonienne et lieu de résidence de la famille Halili. C'est dans ce quartier, aux pelouses impeccables et aux maisons de style victorien, que vivaient Saad, sa femme Iqbal et leurs deux petites filles. Travailleurs acharnés et carriéristes, Saad et Iqbal se sont mariés sur le tard. Dans leurs rêves les plus fous, ni l'un ni l'autre n'auraient imaginé pouvoir encore avoir des enfants. Pourtant, la naissance de Zineb puis de Zina, 3 ans plus tard, comble leurs parents de bonheur. Saad et sa femme sont des parents très démonstratifs, attentifs et aimants. Lui travaille dans une société d'aérospatiale, tandis qu'Iqbal, qui est momentanément mère au foyer, veut reprendre son métier de dentiste. Ils ont un train de vie aisé, peuvent régulièrement se permettre des voyages à l'étranger et ne privent leurs deux petites filles de rien. Malgré leur réussite matérielle, les Halili sont décrits comme des gens discrets qui ont le bon goût de ne pas faire étalage de leurs richesses. La nouvelle de leur assassinat en France choque considérablement leur entourage et surtout le meilleur ami de Saad, James Matthews, qui n'arrive pas à concevoir que quelqu'un veuille du mal à un homme aussi gentil que lui. Saad Halili est né à Bagdad, en Irak, en 1962. En 1971, son père, Kadim, un homme d'affaires prospère, décide de fuir le régime répressif de Saddam Hussein et de s'exiler en Europe avec femme et enfant, c'est-à-dire ses deux fils, Saad et Zaïd. Ils posent leurs valises en Angleterre en 1973 et s'installent dans le quartier de Pimlico. Saad mène une scolarité brillante et s'intègre rapidement dans son nouveau pays. Comme toute famille déracinée, contrainte à fuir son pays natal à cause de la dictature, les Halili souhaitent que leur fils réussisse dans la vie, dans leur nouvelle patrie d'adoption, l'Angleterre. Mais Kadim Halili est un père brutal et intransigeant avec ses fils. Au cours de son exil en Angleterre, il effectue plusieurs voyages en Irak, en Espagne, où il achète une maison et cache d'importantes sommes d'argent en Suisse. Pendant ce temps, Saad, qui est très proche de sa mère, entame ses études dans la prestigieuse université de Kingston. Beaucoup plus tard, il décroche son diplôme d'ingénieur en aéronautique et se spécialise dans la conception des satellites. Puis, il rencontre Iqbal et il se marie. Si c'est un travailleur acharné, il consacre tout son temps libre à sa famille. Il a aussi une autre passion, le bricolage. À la maison, il fait tout lui-même. Il propose même ses services à ses voisins, à titre gratuit bien sûr, car dans son éducation, rendre service quand on le peut est un devoir et non pas une faveur. Il lui arrive aussi de récupérer de vieux objets d'outillage dans les brocantes du dimanche, qu'il remet à neuf et réutilise. Peu avant leur départ pour leurs vacances en France, en compagnie de la mère d'Iqbal, sa femme envisage de reprendre ses études de dentiste à l'université dès leur retour en Angleterre. Selon le témoignage de l'entourage de la famille Halili, on peut conclure que ces derniers menaient une vie heureuse, paisible et loin des problèmes et des fréquentations douteuses. Une vie innocente et saine. Mais alors, comment expliquer la tuerie ? Revenons encore en France, où les enquêteurs se penchent sur le cas de l'autre victime, le cycliste Sylvain Mollier. Originaire d'un petit hameau des environs de Chambéry, âgé de 45 ans au moment de sa mort, ce père de famille de 3 enfants est également un sportif de haut niveau, passionné de cyclisme. Il est présenté comme un homme relativement gentil et conciliant, qui n'avait certes jamais sa langue dans sa poche, mais qui n'avait pas d'ennemis pour autant. Sylvain Mollier travaille en tant qu'ouvrier fondeur dans une usine spécialisée dans la fabrication de combustibles nucléaires. Son emploi dans ce secteur, relativement sensible et dangereux, commence à nourrir beaucoup de fantasmes sur son sujet. La presse dresse l'hypothèse qu'il détenait un secret de fabrication et que cela a conduit à son meurtre, mais cette théorie est très vite écartée. Avant cela, son entourage, aussi bien son ex-femme, sa nouvelle compagne, ses amis, ses collègues, ont été interrogés longuement par les gendarmes sur son sujet. Ils arrivent à la conclusion que Mollier n'était qu'un simple ouvrier chaudronnier et n'était au courant d'aucun secret sensible. Lors d'une conférence de presse qui a lieu 1 an après le massacre, la vie privée de l'unique victime française est mise à nu devant les journalistes, avides de savoir si la question du nucléaire a un quelconque rapport avec le meurtre de la victime. Finalement, c'est Éric Maillot, le procureur de la République d'Annecy à l'époque, qui ferme le dossier concernant Sylvain Mollier avec cette phrase. Si tous les conflits familiaux devaient se conclure par des meurtres, il n'y aurait plus grand monde sur cette planète. Alors, si rien ne désigne Sylvain Mollier comme cible principale du ou des assassins, qui était visé et pourquoi ? Une autre piste est alors ouverte pour savoir s'il y avait un quelconque lien entre Mollier et Léa Lily. Mais les enquêteurs ne trouvent rien. Alors, les gendarmes concluent que le cycliste a été une victime collatérale, autrement dit un témoin qui s'est manifesté au mauvais endroit et au mauvais moment. Les policiers se tournent alors vers la famille Alili et tentent de reconstituer sa dernière journée avant le massacre. Ils apprennent que la famille est arrivée dans le camping baptisé le Lac Solitaire à Saint-Joriot 2 jours avant son assassinat. Le propriétaire du camping explique que les Alili semblaient parfaitement sereins et heureux à la perspective de passer leurs vacances dans la région. Ils ne montraient aucun signe de peur de quelqu'un ou de quelque chose en particulier. Et pourtant, un campeur vient raconter aux enquêteurs que le 4 septembre, soit la veille des meurtres, il a aperçu Saad en train de discuter vivement avec un homme. L'inconnu était habillé en tenue de ville et ne paraissait pas ressembler à un touriste. Il paraissait aussi assez insistant et oppressant durant son échange avec Saad. Le reste des campeurs sont convaincus que cet homme n'est pas un résident du camping. Comment savait-il que la famille Alili était ici ? Qui est-il ? Le mystérieux visiteur n'est pas encore identifié par les enquêteurs. Le lendemain de cette étrange visite, la famille poursuit son séjour normalement. Elle projette de partir en excursion. Alors, Saad et son épouse se renseignent auprès des autres campeurs sur les endroits à voir dans la région, sauf qu'ils semblent hésiter sur le choix de leur destination. En fin de compte, et toujours selon les campeurs qui ont discuté avec le couple ce jour-là, le choix a été laissé aux fillettes Zina et Zineb pour choisir l'endroit où ils souhaitaient aller. Soit faire du shopping dans un centre commercial, soit faire une promenade dans la région. Le choix de la promenade est finalement retenu. C'est donc en début d'après-midi que Saad, Iqbal, la mère de cette dernière, Swaila, Alaf, et les deux petites montent à bord du break et prennent la route en direction du sud du lac d'Annecy. La famille projette de faire une promenade libre, car on leur a dit que Chevaline est un joli village. Sur le trajet, les Alili s'arrêtent d'abord dans un hameau et les habitants se souviennent d'eux, prenant des photos. Elles seront effectivement retrouvées plus tard par les gendarmes dans l'appareil photo de Saad et celui de sa femme. Avec cette ultime preuve, les gendarmes ont désormais la certitude que la famille a fait un arrêt au hameau entre 15h12 et 15h17. Puis, deux maçons qui étaient en train de rénover un chalet voient passer la BMW break de la famille. Ces derniers leur font même un signe de la main. Les maçons assurent qu'ils n'étaient suivis par aucun autre véhicule. Quelques minutes plus tard, la famille s'engage vers le sentier forestier qui mène au parking du Martinet. 20 minutes plus tard, ils sont découverts, baignant dans leur sang par William Brett Martins. Mais une question reste en suspens. Que s'est-il passé entre le moment où la famille est arrivée sur le parking et la découverte de leur cadavre ? À quel moment le ou les meurtriers ont-ils surgi pour les abattre ? Sylvain Mollier était-il sur les lieux avant ou après les meurtres de la famille ? Le seul espoir auquel s'accroche désormais la section d'enquête de Chambéry est que les petites filles rescapées du massacre leur racontent le déroulement des faits. En qualité d'uniques témoins, leurs souvenirs peuvent fournir des éléments importants aux enquêteurs. À l'hôpital de Grenoble, Zineb, 7 ans et l'aînée des deux filles, sort du coma 4 jours plus tard après son admission en réanimation. Très fatiguée, encore sous les effets des sédatifs, les policiers la laissent encore se reposer pendant 3 jours supplémentaires avant de l'interroger. Un membre du consulat britannique assiste à son audition, assis près du chevet de son lit d'hôpital. Reste à savoir si la fillette, qui a plusieurs fractures crâniennes, est en mesure de se rappeler les faits dans leur exactitude. Avec beaucoup de mal, elle raconte qu'elle n'a vu qu'un seul méchant lors du massacre. Le reste, c'est un trou noir. Sa sœur cadette, Zina, restée indemne car dissimulée sous le siège de sa mère lors de l'attaque, raconte de son côté qu'à leur arrivée sur le parking, son père est sorti le premier hors du véhicule, suivi par sa sœur. Puis, elle l'a entendu hurler à cette dernière de remonter immédiatement à l'intérieur. Juste après, elle a entendu comme une série d'explosions. En fait, les tirs de 7,65. En se basant sur les propos de la fillette, les experts en balistique et les gendarmes font une reconstitution de la scène du crime. Le véhicule s'arrête en haut du parking. Saad sort le premier, suivi par sa fille aînée, tandis que sa femme, sa belle-mère et la fille cadette sont restées assises sur la banquette arrière. Au même moment, Sylvain Mollier est arrivé à vélo, et c'est probablement à cet instant que le meurtrier a surgi de nulle part et a commencé à tirer. Les choses ont rapidement dégénéré, et Saad Halili, bien que blessé par un premier impact, remonte à bord de son véhicule et tente de faire une marche arrière désespérée. Dans sa précipitation et sa panique, Saad aurait écrasé accidentellement Sylvain Mollier sans le voir, et les roues auraient traîné son corps, ce qui expliquerait les graves blessures et perforations au niveau des poumons lors de l'autopsie du cycliste. Ensuite, le break opère un demi-tour, patine et s'embourbe dans le talus. Ils sont cernés cette fois-ci. Saad appuie sur l'accélérateur, mais la voiture ne bouge pas. C'est là que le meurtrier se serait approché du véhicule et aurait commencé à tirer avec son arme. Puis, aurait achevé Sylvain Mollier, encore vivant, de 2 balles dans la tête. En Grande-Bretagne, les investigations continuent toujours, en collaboration avec la France. Et là, surgit un tout nouveau personnage, jusqu'ici complètement resté en dehors de l'affaire. Zaïd Halili, le frère cadet de Saad. Les policiers anglais le font venir dans leurs locaux et l'interrogent longuement. L'homme, face à eux, est sur son 31, le visage imperturbable malgré le drame que vient de vivre sa famille, de l'autre côté de la Manche. Ce dernier, bien que méfiant au début et leur affirmant n'avoir aucun lien avec ce qu'il s'est passé, leur fait de nouvelles révélations. Mais avant de continuer, faisons connaissance avec Zaïd. Tout oppose les deux frères. Saad est décrit par ses collègues comme un père de famille, certes ambitieux et intransigeant dans le travail, mais aussi très ouvert, chaleureux et volontiers loquace et blagueur. Il est toujours prêt à rendre service à ses voisins, ouvre sa porte à tout le monde, avec cette chaleur et cette hospitalité sincère qui caractérisent les foyers arabes en général. Zaïd, quant à lui, a toujours été considéré comme le vilain petit canard du clan irakien. Dandy anglais jusqu'au bout des ongles, encore célibataire endurci à 50 ans, il multiplie les conquêtes féminines en toute discrétion, mais se refuse de se lancer dans le marché du mariage. Ce qui faisait enrager son père de son vivant qui désespérait de voir sa lignée s'éteindre avec lui, vu que Saad n'avait eu que des filles. Mais pour Zaïd, le bobo londonien, l'idée de vivre avec une femme sous le même toit le répugne. Toujours tiré à 4 épingles, il aime faire l'étalage de ses biens. Pas à la manière d'un vulgaire parvenu, mais plutôt en ayant des goûts luxueux et raffinés. Il est inscrit au club de tir et de golf, prend le thé de 4 heures dans des hôtels étoilés et voyage beaucoup, en solo. Il est, du reste, décrit comme un homme froid, fermé, secret, voire antipathique. Les problèmes entre Saad et Zaïd Halili commencent à la mort du patriarche, Kadim. Au moment des faits, c'est-à-dire peu avant le voyage fatal à Chambéry, les deux frères étaient brouillés depuis 3 ans et ne se parlaient plus à cause de nombreux différends familiaux, notamment l'héritage de leur père, des biens immobiliers à la valeur considérable, qui comprennent 2 propriétés en Grande-Bretagne, un compte bancaire en Suisse et une maison en Irak. Saad, étant le fils aîné, il a été désigné du vivant de leur père pour gérer l'héritage, comme le veut la tradition musulmane chiite. Quand leur mère décède à son tour, les deux frères se retrouvent totalement en désaccord sur la gestion des biens familiaux, y compris la propriété en Irak, qui ne vaut plus grand-chose et qui est revendiquée par d'autres cousins du côté paternel. Ce différend conduit à des tensions et à des querelles de plus en plus récurrentes entre eux. Ils en arrivent même jusqu'aux mains à cause de cela un jour, et en public. Après avoir raconté sa version, Zaïd est relâché par la police. Un ami de la famille, qui a par la suite témoigné anonymement, fait une confidence à la police à propos des désaccords des frères ennemis. Il leur raconte que Saad commençait à avoir peur de Zaïd. Pourtant, il s'est rendu 2 fois en Irak, en 2004 et 2010, pour tenter de boucler l'affaire du bien immobilier qui existait encore là-bas. À son retour, il a constaté que Zaïd, avec l'aide d'un notaire, avait modifié le legs et avait tenté par tous les moyens de l'exclure de ce qui lui revenait dans le testament paternel, à savoir la somme de 5 millions de livres sterling. La méfiance se transforme en psychose. Il ne se passe plus une rencontre entre les deux frères sans que Saad enregistre toutes leurs conversations à son insu. Il va même jusqu'à changer les serrures de sa maison, poser des alarmes, et il achète même un revolver. Mais ce n'est pas tout. Saad Halili, convaincu que son frère cherche à lui nuire, voire à le supprimer, télécharge un logiciel espion sur son téléphone qui permettrait de le localiser si jamais il disparaît. Au début de l'été 2012, Saad déclare qu'il doit se rendre en Suisse pour un rendez-vous urgent, sans en révéler la source. Il veut en profiter également pour faire du camping dans la région d'Annecy, en compagnie de sa famille. La famille attelle sa caravane à sa BMW Break et entame son voyage. Elle passe d'abord par Calais, Rouen, Dreux, la Loire, avant de se poser au camping d'Annecy. Ces tensions familiales et financières sont alors examinées par les autorités dans le cadre de l'enquête sur les meurtres près du lac d'Annecy en 2012, bien que leur relation problématique n'ait pas été établie comme motif direct pour les homicides. Pendant 5 ans suivant le drame, les autorités des deux pays vont continuer à enquêter sur diverses pistes et mobiles possibles, mais l'affaire refuse de livrer son secret et reste sans résolution définitive. Un cold case. Bien que les preuves et les pistes ne permettent pas de résoudre définitivement l'affaire, les enquêteurs vont commencer à s'en mêler les pinceaux, et c'est ainsi que des victimes sont tour à tour désignées comme suspects potentiels. Pendant un moment, on désigne même Saad Halili, le père de famille aimant, comme principal suspect, responsable de la fusillade. Les éléments de sa vie, y compris ses relations familiales et financières, auraient conduit à un acte de vengeance. Le frère cadet de Saad Halili, Zaïd, a également été considéré comme un suspect potentiel en raison de leurs différends familiaux et financiers. Cependant, aucune preuve directe ne l'a incriminé dans les meurtres. Sylvain Mollier, le cycliste français, également tué sur les lieux de la fusillade. Bien qu'il ait été initialement considéré comme une victime collatérale, certains éléments ont laissé penser qu'il aurait pu être la cible principale, mais cette théorie n'a pas été confirmée de manière concluante. Juste après la fusillade, certains membres de la famille de Saad Halili ont exprimé des soupçons concernant Iqbal, suggérant qu'elle aurait pu être impliquée dans les meurtres. Elle a été suspectée dans l'affaire de la tuerie de Chevaline pour plusieurs raisons, notamment des problèmes d'argent, un amant potentiel ou des secrets dans le travail de son mari qu'elle aurait divulgué à d'autres personnes. Cependant, ces allégations ont été controversées et n'ont pas été corroborées par des preuves tangibles. De plus, des informations ont émergé sur les tensions au sein du couple Halili, suggérant des problèmes conjugaux et des disputes familiales. On apprend par exemple que les deux conjoints se sont trompés mutuellement. Mais cela reste une hypothèse parmi d'autres. Certains éléments, dans les témoignages des deux fillettes survivantes des Halili, ont été considérés comme étant peu clairs ou contradictoires, ce qui a suscité des interrogations supplémentaires de la part des enquêteurs. Malgré ces suspicions initiales, il est important de noter que les autorités n'ont jamais formellement inculpé Iqbal Halili ou présenté des preuves concluantes de son implication dans les meurtres. L'enquête a continué à explorer diverses pistes et suspects potentiels au fil des ans, mais elle reste non résolue et le mystère persiste quant aux véritables auteurs de cette tragédie. Le passé de Saad Halili a également été scruté, révélant des liens avec des technologies sensibles et des services de renseignement.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bon. Bien que rien de probant n'ait été découvert pour étayer ces suppositions. De même, des pistes liées à des conflits politiques ou à des actes terroristes ont été explorées, mais aucune n'a abouti à des résultats tangibles. Au fil des années, l'enquête se heurte à des obstacles et à des impasses. Les témoignages ont parfois été contradictoires, les preuves matérielles insuffisantes, et les mobiles potentiels demeurent flous. Malgré les efforts des autorités françaises et des experts internationaux, l'affaire de la tuerie de Chevaline reste un mystère non résolu qui continue de susciter l'intérêt du public. Des documentaires, des articles et des livres ont été consacrés à cette affaire fascinante et troublante, tentant de démêler les fils complexes qui entourent ces meurtres inexplicables. Les théories du complot côtoient les analyses minutieuses des éléments factuels, mais aucune ne parvient à fournir une explication convaincante et définitive. En conclusion, l'affaire de la tuerie de Chevaline demeure un sombre chapitre dans l'histoire criminelle, un puzzle complexe qui refuse toujours de livrer ses secrets. Tant que des réponses claires ne seront pas trouvées, elle continuera d'alimenter les spéculations et les débats sur la nature humaine, la justice et les mystères non résolus qui défient notre compréhension. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.